20h-21h, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
Bonsoir. Les trois quarts des Français approuvent le refus d'Emmanuel Macron d'accueillir l'Aquarius à Marseille, même s'ils ont une très bonne opinion des ONG qui portent secours aux migrants. Nous commenterons dans les informés ce soir le résultat aussi net qu'ambivalent de notre enquête Odoxa Dentsu Consulting. Ce sera droite contre droite. Édouard Philippe affronte Laurent Wauquiez en duel ce soir dans l'émission politique sur France 2. On en parle également. Le Premier ministre, homme à tout faire d'Emmanuel Macron, qui est allé à Marseille pour tenter, tant bien que mal, de rassurer des élus locaux, eux en mal de décentralisation. Le président, lui, a entamé son déplacement aux Antilles à la rencontre de la population martiniquaise et de la tempête tropicale Kirk. Enfin, Angela Merkel essuie un vent, mais de contestation, y compris dans les rangs de sa propre formation, la CDU, quand la chancelière chancel. On en parle avec nos invités ce soir sur France Info. Bonsoir Caroline Michel-Aguirre.
Bonsoir.
Partenaire des informés, chef du service affaires de l'Obs. Également avec nous Véronique Reilsoult. Bonsoir Véronique.
Bonsoir.
Un habitué des informés le jeudi, je ne sais pas pourquoi, puisque vous dirigez quand même directrice générale de Dentsu Consulting. Avec nous également, bonsoir et bienvenue Yannick Halimi.
Bonsoir.
Autre partenaire, rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien aujourd'hui en France, et invité en minorité ce soir sur ce plateau. Bonsoir Philippe Moreau-Chevrolet, président de MCBG Conseil, et vous enseignez la communication politique à Sciences Po Paris. Nous sommes ensemble, les informés, c'est jusqu'à 21h à la radio et sur le canal 27 de la TNT. Les Français sont-ils un brin schizophrène sur la question des migrants? Selon notre enquête Odoxa Dentsu Consulting, effectuée hier et aujourd'hui sur Internet auprès d'un millier de personnes, les trois quarts des Français donc approuvent le refus d'Emmanuel Macron d'accueillir l'Aquarius à Marseille, je le disais à l'instant, mais en même temps, ils sont une courte majorité à avoir une bonne opinion des ONG qui viennent en aide aux migrants. Explication avec vous, Gaël Slimane, le président d'Odoxa.
On a les trois quarts des Français qui disent qu'ils sont d'accord avec la réponse qu'avait faite Emmanuel Macron à cette demande, le priant instamment d'accueillir l'Aquarius à Marseille pour des raisons humanitaires, et donc les 58 migrants, dont les 18 mineurs qui s'y trouvaient. Et quand on pose la question aux Français, ils nous disent non, il a raison de dire qu'il faut faire jouer les règles dites du port le plus sûr, le plus proche, donc Malte, et donc de ne pas accueillir ces migrants à Marseille. Il y a trois mois déjà, l'Aquarius était invité dans le débat politique. Au mois de juin, on avait déjà fait un sondage qui montrait que, décidément, sur ces sujets liés aux questions migratoires, les Français sont extrêmement durs.
Alors, Véronique Reilsoult, Emmanuel Macron donc aurait raison, mais les ONG aussi.
Les ONG aussi, puisque les Français sont plutôt d'accord avec les propos du président de SOS Méditerranée, et puis que globalement, ils ont plutôt une bonne opinion des migrants, puisque 42% des Français trouvent que les migrants sont des gens tout à fait respectables. Et ça donne cette ambivalence et cette ambiguïté qui pourrait être résumée par quelque chose qu'on lisait pas mal sur les réseaux sociaux ces derniers jours, qui est d'un côté accueillir et perdre son identité, et d'un autre côté perdre son identité en refusant l'accueil. Et finalement, ça résume assez bien l'espèce de difficulté dans laquelle...
Pour vous, c'est pas totalement contradictoire, en fait.
C'est pas totalement contradictoire, c'est comment gérer la réalité d'une sorte d'humanité. Il y a quelque chose qui commence quand même à poindre de plus en plus, c'est la notion de culpabilité, qui explique aussi par moment pourquoi on se sent un peu coupable de dire non. Et donc, quand c'est un homme politique qui dit non, et ça explique sans doute certaines montées, c'est pas moi qui l'ai dit. Et je laisse le politique le dire, et donc, du coup, ma culpabilité est moins forte.
Alors, Yannick Halimi, il faut rappeler que les migrants, ce sont des personnes, des hommes, des femmes, des enfants, on en veut bien, mais pas chez nous, c'est un peu ça l'idée aussi.
Ah non, moi je ne pense pas que les Français disent ça, et d'ailleurs Emmanuel Macron ne dit pas ça, même si beaucoup, y compris au sein de sa majorité, notamment à gauche, qu'elle soit socialiste ou insoumise, notamment ce printemps au moment du vote de la loi asile-immigration, lui ont reproché son manque justement d'humanité, son manque d'empathie, de sympathie vis-à-vis des migrants. Mais donc, pour revenir à votre question, je ne pense pas que les Français, en tout cas sondés par ce sondage, que l'opinion publique disent non, on ne veut pas des migrants. Ils ont un côté extrêmement réaliste, c'est-à-dire qu'il faut, il faut les accueillir et prennent en compte ce qui peut se passer, notamment en termes de conflit, mais je pense que derrière le fait qui est de dire on n'accueille pas tout le monde puisque c'est le discours d'Emmanuel Macron, il pose non pas le problème du refus, mais le problème de du refus de l'opinion publique ou de la France, mais le problème de l'intégration. Et c'est vrai, quelles que soient les causes qu'on peut donner à ces problèmes d'intégration, ces problèmes d'intégration en France sont réels, qu'ils soient économiques, sociaux. Alors. Ou culturel.
Alors Caroline, Michel Laguire, je me fonde sur l'enquête Odoxa Dentsu Consulting. La solution européenne trouvée pour l'Aquarius, c'est pas 58 passagers approuvés par 6 Français sur 10, ok, mais elle est majoritairement rejetée par les sympathisants LR et RN, Rassemblement National. Est-ce qu'il faut y voir une sorte de ligne de démarcation entre les grandes formations politiques pour au hasard les européennes qui viennent?
Certainement, mais je pense que c'est plus sur le degré d'ouverture que sur le oui ou non. L'angoisse qui s'exprime vraiment de la part des Français, c'est l'angoisse du non-contrôle du flux de migrants. Je pense que pris individuellement, personne ne souhaite la mort en mer, ou je ne sais pas comment le dire, des 58 migrants sur le bateau. La question, c'est de comment on ouvre, à quel rythme et sous quelles conditions. Et je pense que la démarcation entre la droite et la gauche, pour les européennes ou les macronistes et la droite, elle se fera sur cette plus ou moins grande fermeté. Les Français expriment l'angoisse, non pas le refus des migrants, mais l'angoisse qu'on ne puisse pas contrôler ni dans le temps ni dans l'afflux ces migrants. C'est là-dessus, sur cette échelle-là, que ça va se jouer.
Philippe Moreau-Chevrolet, vous n'y voyez pas forcément, vous non plus, de contradiction dans ce qui est dit ce soir de ce qui ressort de ce sondage?
Si, c'est une contradiction nécessairement, puisqu'on dit en même temps qu'on n'a pas envie de les abandonner et qu'on refuse de les accueillir chez soi. Mais en fait, il y a des anecdotes multiples là-dessus. On a ouvert récemment, dans d'anciens hôtels Formule 1, on a ouvert des foyers pour accueillir les réfugiés. Ça s'est fait très vite, parfois sans concertation avec les populations locales. Le premier réflexe, du côté de Tarbes par exemple, c'était que la population a construit un mur en brique, un vrai mur en brique, pour se protéger des réfugiés du jour au lendemain. Bon, mais par la concertation, par le dialogue, on est arrivé à faire détruire le mur par la population et on est arrivé à faire comprendre que ces gens-là avaient leur place. Et aujourd'hui, ça se passe très très bien. Les Français ont besoin qu'on les convainque que la crise des réfugiés est maîtrisée, qu'il y a une solution possible et que c'est pas quelque chose qui arrive comme ça du ciel.
Allez, on va aller plus loin sur cette enquête dans un instant, 20h10 sur France Info. Tout d'abord, c'est le rappel de l'info avec vous, Emmanuel Grabé.
À la voix tremblante, visiblement très émue, Christine Blasey Ford racontait cet après-midi devant la commission judiciaire du Sénat américain la nuit où Brett Kavanaugh l'aurait agressée sexuellement en 1982. Le juriste américain doit livrer dans la foulée sa version des faits, lui qui est le candidat de Donald Trump pour entrer à la Cour suprême. Le vote des sénateurs pour sa nomination à la plus haute juridiction américaine est attendu demain après-midi. Une plainte déposée contre l'État par un collectif guadeloupéen. Il accuse l'État de ne pas en faire assez pour lutter contre les sargasses, des algues nauséabondes et toxiques qui envahissent les côtes de l'île. Emmanuel Macron, en visite en ce moment aux Antilles, est très attendu sur ce sujet, comme sur celui du chlordécone, un insecticide utilisé dans les bananeraies jusque dans les années 90 et qui a empoisonné les sols. On estime qu'il a contaminé aussi la quasi-totalité de la population guadeloupéenne et martiniquaise. 30 ans de réclusion criminelle requis aujourd'hui devant les assises de l'Aude à l'encontre de Joachim Taureau, un plombier à la retraite de 85 ans. Il est accusé de 3 meurtres et de 2 tentatives d'homicide. C'était en 2011 à Rivesaltes, près de Perpignan. Joachim Taureau n'a livré aucune explication à son geste. Il parle d'un premier tir accidentel et dit ne pas se souvenir de la suite. Et puis le groupe M6 va devoir attendre encore un peu avant de vendre les Girondins de Bordeaux au fonds américain GACP. Un vote de la métropole de Bordeaux obligatoire pour conclure la transaction était prévu demain matin. Il a été reporté par Alain Juppé au 12 octobre prochain.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Allez, dans le détail, les Français valident à 62% ce que le président Emmanuel Macron a déclaré aux Nations Unies.
J'en ai conscience, parfois donner le sentiment de ne pas céder à des bons sentiments faciles, parce que je pense qu'ils sont sans lendemain. Et je pense que si je suivais cette voie, elle ferait basculer le pays vers les extrêmes, elle nourrirait les extrêmes xénophobes dans notre pays, et elle ne réglerait pas durablement la situation.
Véronique Reilsoult, apparemment les gens ont compris ce qu'il a voulu dire, et vous?
Je ne sais pas si j'ai compris, mais
62%
en tout cas,
quand même,
62%
c'est beaucoup.
Sont d'accord avec ce discours, voilà ce qu'on disait tout à l'heure. Après, moi, il y a un autre enseignement.
C'est quoi le problème? Sont les extrêmes ou c'est la décision pure et simple par rapport au fond le partage des migrants qui arrivent en Europe?
Bon, d'abord, sur le sujet du partage en soi, c'était intéressant de regarder que cette histoire de chiffres de 58, puis 16, puis 18 n'était pas pas forcément bien perçu, mais je pense que ce qu'on disait juste avant finalement explique aussi ce sujet qui est, en fait, c'est de ne pas savoir quelle sera la solution, ce sentiment de non-maîtrise. Et d'ailleurs, il y a un autre enseignement intéressant dans le sondage qui est 6 Français sur 10 seraient d'accord pour une solution européenne, en disant, bah, finalement, il faut qu'on trouve une solution ensemble. Et là où c'est intéressant, alors c'était pas dans le sondage, mais là, je l'avais vu sur les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, en revanche, ils ne croient pas que Emmanuel Macron arrivera à trouver une solution en soi et que ça va être difficile. Donc en fait, ils ont envie d'une solution européenne, on a envie de quelque chose de cadré, mais dans le fond, on a un peu du mal à croire qu'on y arrivera, ne serait-ce que par cette démonstration de « je t'en prends deux, tu m'en prends quatre », enfin...
Solution européenne, oui, ça veut dire on a envie que ce soit les autres aussi, hein.
Je suis pas sûre, moi.
Hypocrite.
Alors, votre avis, Yannick Halimi, là-dessus? Enfin,
pardon, moi,
c'est ce que j'entends.
Je ne suis pas sûre, puisque tout de même, il y a cette volonté à travers le sondage et même à travers ce que vous disiez, Philippe, il y a quand même plus que ce sentiment, enfin, cette adhésion française de civilisation,
oui, mais
de ne pas rejeter ces gens qui fuient leur pays, soit pour la faim, soit pour des raisons de terrorisme et de guerre. Ce que je voudrais dire, c'est que on est un peuple, pour revenir au sondage, on est un peuple cartésien, on est un peuple de droit romain, et je pense qu'on aime beaucoup, qu'on se raccroche aux solutions juridiques et aux solutions.
Qu'il y a une part d'irrationnel dans ce qui est répondu dans ce sondage.
Non, moi je ne pense pas. Une part de droit, et je pense, sous réserve évidemment des limites que peut apporter l'Europe dans ce domaine, pour le coup des limites politiques, notamment avec ce qui se passe par exemple en Hongrie ou en Italie, je pense que la solution européenne est revendiquée par les Français et ça doit passer par des règles de droit, que ce soit des quotas, que ce soit le respect du droit maritime, qui a été la raison initiale pour laquelle M. Macron, dans le premier Aquarius, avait toqué, si je puis dire, enfin, renvoyé dans ses buts M. Salvini, qui ne voulait pas accueillir le bateau Aquarius cet été, parce que juridiquement et en termes de droit international, l'Italie devait l'accueillir. Et c'est au nom du droit qu'Emmanuel Macron a taclé son partenaire italien. Donc je pense qu'il y a une rationalité, un raisonnement dans la réflexion et dans les réponses données par les Français. Maintenant, encore faut-il que ce soit suivi des faits au niveau européen et au niveau juridique.
Alors justement, Philippe Moreau-Chevrolet, est-ce que vous avez la sensation qu'au travers les réponses qui sont faites et des décisions prises, qu'une sorte de modèle est en train de se dessiner en marchant, si je puis dire?
Oui, on a le sentiment que les Européens apprennent à se refiler le bébé d'une manière un peu plus élégante qu'avant, c'est-à-dire en se concertant un peu plus, mais on se refile quand même le bébé. Hein. C'est, il y a un dessinateur qui avait résumé ça dans Le Canard Enchaîné en disant 58 réfugiés qui menacent 68 millions de Français. C'est un peu dérisoire, toutes ces querelles. Au fond, on est tout à fait dans le symbolique. D'abord, on n'est pas menacé par des vagues d'immigrants. Au contraire, ça baisse d'année en année. On est vraiment purement dans le symbolique. Et c'est cette querelle de symbole qui est intéressante parce que Macron, il évolue sur une ligne de crête assez difficile entre la volonté de clivé au niveau européen avec Orban, donc je suis quand même plus tolérant que lui. Hein. La volonté de pas décevoir son électorat conservateur, donc on en veut quand même pas chez nous, mais d'une façon suffisamment, effectivement, Yannick Halimi a raison, légaliste et républicaine pour que ça ne puisse pas lui être reproché et que ça ne serve pas à alimenter un procès en extrême droite sur le plan domestique.
Donc il est dans
une situation complexe.
Ouais, c'est une synthèse, c'est un peu un grand écart selon vous pour
Disons que c'est une position politique extrêmement difficile. Maintenant, ce qui est remarquable quand même, c'est que la seule chose que de gouvernement en gouvernement, on maintient comme politique publique extrêmement clair, c'est le refus de l'immigration, d'une certaine façon, plus ou moins poli, et là qui devient de moins en moins poli avec le temps.
Alors Caroline de Michel Aguirre, vous pensez-vous que cette enquête traduit une sorte de trouble de l'opinion, un sentiment de culpabilité? On ne veut pas d'arriver de réfugiés de façon massive, mais on reçoit peut-être une forme de gêne au fond de soi?
Oui, c'est ce que j'entends quand on dit espérer la solution européenne.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure,
J'ai réagi vivement. Mais il y a la part absolument rationnelle qui est légaliste, etc., et qui se dit c'est pour ça qu'on a construit l'Europe, qu'on a fait Schengen. La logique est qu'on ait une réflexion et une vraie gestion au niveau des frontières européennes, de fait. Et je crains que ce qu'on pense à l'intérieur de soi, c'est pourvu que les autres en prennent plus que nous, qu'il y ait une forme de « oui, j'aime les migrants », parce que quand même, c'est pas très chic de dire qu'on les aime pas, mais que c'est mieux s'ils vont à côté. Moi, ce qui me frappe, on parlait de la synthèse dans le discours d'Emmanuel Macron, sa réaction, c'est que son discours est purement politicien. C'est très intéressant dans sa
politique,
manière de...
Politique.
De réfléchir.
Politicien ou politique?
Ce que j'entends, moi, dans ce qu'il dit, politique, ça pourrait être un engagement. Moi, j'entends dans ce qu'il dit, c'est le calcul. Il dit, je ne vais pas me mettre dans la situation de Madame Merkel d'ouvrir les frontières qui aboutiraient à faire monter l'extrême droite et qui serait, là, il englobe tout le monde.
C'est une forme de décryptage public, d'aveu public de ce qu'il faut faire ou ne pas faire.
Moi, je pense que c'est ce qui est le plus frappant dans ce discours-là. Il pourrait dire un grand discours humaniste.
On peut dire que c'est politicien, mais du coup, on reproche tout et son contraire à Emmanuel Macron, puisqu'on lui reproche de vouloir attiser le feu et de vouloir faire monter le Front National ou le Rassemblement National parce que ça l'arrange et qu'il instrumentaliserait le Rassemblement National. Et là, il dit, et vous confirmez ce qu'il dit, qu'au contraire, son discours que vous appelez politicien, mais pourquoi pas, moi je dis qu'il est plutôt politique, c'est justement pour éviter que le Rassemblement National, les populistes et les extrêmes ne se développent.
Je le note juste.
Donc, on fait les deux procès à Emmanuel Macron, ce qui prouve qu'il est plus politique que politicien, en tout cas sur ce domaine-là.
On ne serait pas d'accord là-dessus. Dernière chose, Véronique Redsoult, dans ce sondage, en croisant les résultats, 38% des Français sont d'accord avec Francis Vallat, qui est le patron de l'ONG SOS Méditerranée, et avec Éric Ciotti en même temps, qui veut renvoyer les migrants chez eux. Comment c'est possible, ça? Parce que l'un dit, il faut les accueillir, voilà, c'est une question d'humanisme, et l'autre dit, surtout, il faut qu'ils retournent à la maison.
Et c'est pour ça que je vous dis, cite à ces deux phrases qui étaient les plus reprises cette semaine, qui est accueillir et perdre son identité ou perdre son identité en refusant l'accueil. Dans les deux cas, il y a un sujet d'identité. Dans les deux cas, c'est une question compliquée. Sans doute beaucoup de sentiments de culpabilité, beaucoup de complexité les uns et les autres face à cette situation. Donc, on est capable de trouver que deux phrases et deux positions aussi opposées, dans le fond, pourraient fonctionner. Et je pense même que on parlait de l'Europe. Est-ce que c'est une solution pour se déculpabiliser? Moi, je pense que le sujet des migrants, pas de l'Aquarius en soi, mais des migrants, va être le sujet et le grand sujet des élections européennes. C'est ça le vrai enjeu.
Oui, parce qu'en fait, les semaines et les mois passent et le sujet, au fond, grandit au fur et à mesure des drames qui se produisent sous nos yeux. Allez, 20h20 sur France Info. L'info, le retour avec vous, Emmanuel Grabé.
Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, annonce ce soir dans un tweet qu'il va porter plainte contre Yann Moix pour ses propos injurieux envers les policiers. Propos tenus le week-end dernier dans l'émission Salut les Terriens, il les a accusés de manquer de courage et de se victimiser. Des propos qui ont mis en fureur les syndicats policiers. Alternative Police, CFDT, a déjà porté plainte en début de semaine. Un rassemblement de commerçants et d'élus à Aulnay-sous-Bois, près de Paris. Aujourd'hui, il dénonce le projet Europa City, un énorme complexe de commerce et de loisirs, projet contre lequel se battent déjà des militants écolos. Le maire Les Républicains d'Aulnay-sous-Bois parle d'une machine à broyer le commerce de proximité. Un attentat terroriste majeur déjoué aux Pays-Bas annonce ce soir de la justice néerlandaise. 7 hommes ont été arrêtés. Selon les enquêteurs, ils prévoyaient d'attaquer un grand événement avec des ceintures d'explosifs et des kalachnikovs. Un projet à un stade très avancé selon la justice et qui devait faire de nombreuses victimes. Le président de l'autorité palestinienne prend à partie Donald Trump pendant son discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies aujourd'hui. Mahmoud Abbas demande au président américain de revenir sur sa décision de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, une décision qui compromet, selon lui, une solution à deux États pour régler le conflit israélo-palestinien. Et puis le ministre turc des Sports juge désolante la décision de l'UEFA. Elle attribue aujourd'hui à l'Allemagne l'organisation de l'Euro 2024. C'est la quatrième fois que la compétition échappe à la Turquie.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors il y en a un qui doit être concentré ce soir, c'est Édouard Philippe, le Premier ministre, qui est l'invité de l'émission politique sur France 2. Il sera d'ailleurs confronté dans la soirée à Laurent Wauquiez. C'est une sorte de rentrée médiatique pour Édouard Philippe. C'est l'homme de toutes les situations, sur tous les fronts, le budget, le prélèvement à la source, l'affaire Benalla ou encore les collectivités locales. Écoutez cet extrait d'Édouard Philippe devant le congrès des élus locaux aujourd'hui réunis à Marseille.
Je ne nie pas, Monsieur le Président, nos désaccords. Je ne nie pas non plus l'importance des efforts que l'État vous demande. Je ne nie pas non plus l'ampleur des transformations que nous engageons. Nous avons été mandatés pour les engager. Alors nous les engageons et mon objectif, c'est de faire en sorte que le cap qui a été fixé par le président de la République devant les Français, il soit tenu.
Voilà, ça c'est pour planter le décor. On parlera des collectivités locales dans la deuxième partie des Informés de France Info. Philippe Moreau-Chevrolet, cet Édouard Philippe, comment est-ce qu'on peut le qualifier? C'est quoi? C'est une sorte d'homme à tout faire, inspiré, de démineur, de rempart, de fusible?
Moi, je dirais pas fusible parce qu'il a une, il occupe une place assez singulière. Il a été le meilleur dans l'affaire Benalla de très très loin. C'est-à-dire, c'est le seul qui a su parler au Parlement et calmer un peu le jeu au mois de juillet. Il était assez remarquable. C'était l'un des seuls qui avait un vrai discours républicain sur cette affaire, qui pouvait défendre le président. C'est le seul à l'avoir vraiment fait. Donc, du coup, il est assez surprenant parce qu'on s'attend parfois à le voir complètement disparaître là où il devrait ne pas prendre de coups, typiquement l'affaire Benalla. Et au contraire, il va sur le devant de la scène assez crânement pour assumer. En même temps, il disparaît complètement derrière l'Élysée et on voit bien que l'Élysée ne cesse de jour en jour d'accroître ses pouvoirs, notamment à son détriment. On dit de lui qu'il va partir à la mairie de Paris. Alors ça, c'est la grande rumeur dans Paris aujourd'hui.
Oui, c'est, ça court. Hein, oui.
Voilà, c'est qu'il serait parachuté parce que les autres ne sont pas nécessairement très convaincants. Griveaux, Mounir Majoubi ne sont pas nécessairement des candidats d'envergure. Donc on cherche autre chose.
Ce serait pour Anne Hidalgo, le rival le plus dangereux. Voilà.
Oui, alors il y a beaucoup de rivaux dangereux pour Hidalgo en ce moment. Hein. Elle est quand même solide sur ses bases. Hein. On la donne morte, mais parce qu'on est très énervé contre elle pour plein de bonnes raisons à Paris. Mais il ne faut pas oublier qu'elle maîtrise ses arrondissements, elle maîtrise son terrain, et c'est pas le premier venu qui va arriver à la déloger, comme on l'a vu la dernière fois.
Jeannick Halimi, Édouard Philippe, que diriez-vous? Il est l'homme de la situation aujourd'hui, ou c'est encore l'enfer de Matignon? Il prend ses ordres à l'Élysée et puis s'en va.
Il prend ses ordres à l'Élysée, oui, mais il l'assume. Donc, Édouard Philippe disait au début du quinquennat, enfin. J'ai deux prénoms, il faut que je me fasse un nom. Je pense que maintenant, il a ce nom-là. Comme le disait Philippe Moreau-Chevrollet, il était là, sur le devant de la scène à des moments clés. Contrairement à ce qui s'est passé entre, par exemple, François Fillon, Nicolas Sarkozy et François Fillon, Sarkozy qui traitait Fillon de collaborateur, ce qui s'est passé aussi en 2014 entre Hérault, François Hollande et Jean-Marc Hérault, où Jean-Marc Hérault était encore à Matignon, mais on savait que François Hollande cherchait un successeur. Aujourd'hui, même si de façon récurrente on parle de remaniement et de départ d'Édouard Philippe, pour le moment ce n'est pas le cas. Édouard Philippe assume totalement le poste qui est le sien derrière un Emmanuel Macron, il le rappelle, qui a été élu avec la vague que l'on connaît, et que troisièmement, c'est lui effectivement, et pardonnez-moi, les deux personnes travaillent totalement bien ensemble, et ils travaillent même presque institutionnellement ensemble, puisque contrairement à ce qui s'est passé auparavant...
Il n'y a pas de sujet entre eux, en fait.
Il y a pu avoir les 80 km/h, vous voyez, ou sur lequel... moi, je pense que le couple va plutôt bien, malgré des rumeurs récurrentes de dégradation de leur relation.
Caroline Michel-Aguirre, Wauquiez versus Philippe versus Wauquiez, sont deux droites qui s'affrontent ce soir, deux droites très différentes, mais au fond, c'est un peu un héritage aussi. Hein. On a connu ça par le passé. Hein.
Oui, la droite modérée contre la droite moins modérée. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez, l'homme à tout faire, moi je dirais plutôt que c'est l'homme à faire de la politique. C'est-à-dire que Emmanuel Macron l'emploie exactement pour la raison pour laquelle il l'a engagé. Si je peux utiliser un mot d'entreprise, il l'a engagé parce qu'il avait un profil politique et qu'il était fort à droite. Et c'est exactement ce qu'il fait aujourd'hui. On l'envoie...
C'est le job de Matignon, hein, depuis le début de l'histoire de la Ve République. Non,
non, le job du gouvernement dans la Ve République, dans la Constitution, c'est de mener la politique, c'est d'être aux manettes au quotidien et de mettre en œuvre les grandes lignes décidées par l'Élysée. Or, l'Élysée aujourd'hui est à la manœuvre et Édouard Philippe est là pour baisser la grogne des électeurs locaux et essayer d'atomiser l'autre partie de la droite.
Véronique Rensoult, il est populaire ce Édouard Philippe ou pas? Non.
Non, il n'est pas populaire. Je suis désolée.
Bon, c'est cash, là, en tout cas, sa cote de popularité suit celle d'Emmanuel Macron, en fait, sans sens qu'il n'est pas un Philippe.
Moi, je trouve qu'il n'est pas très visible. Oui, il sort quand il faut, mais ce n'est pas un ministre dont on parle beaucoup. En tout cas, sur les réseaux, ce n'est pas le ministre dont on parle le plus. Il n'est pas impopulaire, mais n'est pas populaire au sens où il a quelque chose qui n'est pas perçu. Et puis, les 80 km/h, honnêtement, c'est un caillou dans sa chaussure qui va avoir longtemps. Vraiment, je vous assure, il faut regarder comment vous allez sur Facebook.
En tout cas,
vous
c'est efficace parce que le nombre de morts ou d'accidents a baissé depuis l'application de la mesure.
C'est que la perception sur
les morts politiques
ne
se comptent pas de la même façon.
Que dites-vous?
Je merci.
Les morts politiques ne se comptent pas de la même façon.
Mais je ne juge pas de la mesure en soi. Donc, je vous dis juste qu'il y a une réalité.
Il n'est pas populaire et qu'en plus, il risque de payer l'addition de cette réforme.
Cette histoire des 80 km/h, tout le monde pense que c'est passé. Honnêtement, quand quand vous regardez sur les forums, sur Facebook, quand vous écoutez.
Et vous pensez qu'on l'impute vraiment, l'opinion publique l'impute à Édouard Philippe?
À Édouard Philippe, vraiment, vraiment.
Mais il n'y a pas, rapidement, parce que leur tour, il n'y a pas un élément de séduction dans ce que vous pouvez lire.
Après, il y a des, quand on regarde, ils apprécient le fait qu'il est sérieux, qu'il est carré. Il a un peu l'image de, c'est le directeur général dans une entreprise, il y a le président et directeur général. Voilà, on trouve qu'il est sérieux, que l'homme est plutôt perçu comme sympathique et agréable et avec pas mal d'humour, mais en soi, c'est pour ça que je dis pas populaire au sens où voilà, il n'est pas perçu comme proche d'eux et voilà, et il fait bien le boulot.
Nous verrons dans un instant s'il aura su apaiser, si je puis dire, les élus locaux. Ce sera dans la deuxième partie des Informés de France Info après la météo et le rappel de l'info.
Pierre est électricien et client Hyperbureau. Mais si chez lui, il a une mauvaise surprise aux toilettes, il disjoncte.
Quand on finit le papier, on en remet !
Chez Hyperbureau, nous lui donnons ce petit conseil. Pierre, vous seriez bien mieux au boulot. Papier, enveloppe, stylo, cartouche d'encre, vous avez toujours tout à portée de la main.
Hyperbureau.
Hyper pro.
Hyper proche.
Et si, en Amérique du Nord, nos vignobles français doivent séduire une clientèle experte, d'où le recrutement de Kim, notre petit prodige, œnologue de formation en mission VIE pour un an.
En effet, je m'occupe de l'animation du réseau de distributeurs. I love meeting people all over the states. J'adore rencontrer des gens à travers tout le pays. It's awesome.
Et vous, le volontariat international en entreprise, ça vous parle ? Business France offre une solution RH de mobilité internationale gagnant-gagnant pour les jeunes talents et les entreprises. Renseignez-vous au 0810 659 659.
VIE, l'ambition d'aller plus loin. France Info.
France Info Météo, avec Pilote, fabricant de stylos innovants au grand confort d'écriture. Pour l'école, la maison ou le bureau, retrouvez tous les stylos Pilote sur pilotepen.fr.
La météo, le rappelle avec vous, Jean-Pierre Hameau pour Météo France.
L'anticyclone va faiblir dans sa partie nord. En conséquence, nous allons retrouver demain matin une perturbation essentiellement nuageuse de la Normandie au Nord-Pas-de-Calais et de l'Île-de-France à la région Champagne-Ardennes. Quelques gouttes de pluie très anecdotiques se feront sentir dans le nord. En revanche, le vent de secteur nord-est va souffler jusqu'à 60 km/h le long des côtes de la Manche. À noter la présence d'entrées maritime sous forme de nuages bas le long des côtes charentaises et landaises. Et partout ailleurs, votre matinée sera bien ensoleillée. L'après-midi, éclaircies et cumulus inoffensifs vont se partager le ciel dans la moitié nord du pays. Prévoyez un franc soleil dans la moitié sud. Côté température, les minimales seront généralement comprises entre 5 et 12 degrés. Comptez entre 12 et 17 dans le sud et le sud-ouest. Les maximales vont baisser nettement dans la moitié nord en se rapprochant des moyennes de saison. Prévoyez 16 à 24 degrés. Elles resteront estivales dans la moitié sud et comprises entre 24 et 30 degrés.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
France Info, il est 20h30, toute l'info avec vous, Fiona Mogadam, bonsoir.
Bonsoir, le chef de la police municipale de Rodez dans l'Aveyron a été tué dans une agression au couteau ce matin. Il a reçu 3 coups de couteau alors qu'il se trouvait en plein centre-ville et devant plusieurs témoins à Alain Gastal.
Une scène d'une violence inouïe, un homme gisant dans une mare de sang, c'est ce que racontent les témoins qui ont dû, pour certains d'entre eux, être secourus par la cellule d'aide psychologique. Le chef de la police municipale de Rodez sortait des locaux de celle-ci quand il a été sauvagement agressé en fin de matinée et frappé par 3 coups de couteau, dont un à la carotide. L'agresseur s'est enfui, mais il n'est pas allé bien loin. Il a été rattrapé quelques dizaines de mètres plus loin dans un magasin de vêtements où il avait trouvé refuge. Il s'est laissé arrêter sans faire de difficulté. Il s'agit d'un Belge de 39 ans qui est arrivé il y a moins d'un an à Rodez. Il avait dans un premier temps trouvé un travail de peintre en bâtiment avant de perdre ce travail. Seul différent connu avec la police municipale, son chien, un American Staffordshire, lui avait été retiré une semaine auparavant car il n'avait pas le droit de posséder un animal dangereux du fait de son casier judiciaire qui comprenait plusieurs condamnations pour vol et pour violence. Rodez, Alain Gastal, France Info.
Un jeune adolescent de 13 ans mis en examen pour viol et agression sexuelle dans la Somme sur 22 jeunes enfants. Les faits les plus anciens remontent à 2014. Il se serait produit dans l'abbaye de Valoire, un foyer qui accueille des enfants en difficulté. Le conseil départemental de la Somme et la préfecture ont lancé une inspection dans l'établissement pour déterminer d'éventuelles responsabilités. L'audition d'Alexandre Benalla prévue demain a été reportée. C'est ce qu'ont annoncé les nouveaux avocats de l'ancien collaborateur de l'Élysée. Hier soir, l'avocat avocats d'Alexandre Benalla a annoncé la fin de leur collaboration d'un commun accord avec son client. La nouvelle date de cette audition chez le juge d'instruction, la première sur le fond, n'est pas connue. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, porte plainte contre le chroniqueur Yann Moix après ses propos sur des policiers. Propos jugés injurieux et diffamatoires par le ministre et qui ont suscité la colère des syndicats. Samedi dernier, Yann Moix a notamment accusé les policiers de se victimiser avant de regretter ses propos. Le président de la République est actuellement aux Antilles, un déplacement de 4 jours. Emmanuel Macron vient de déclarer que l'État doit prendre sa responsabilité dans la pollution au chlordécone aux Antilles. Cet insecticide cancérogène et perturbateur endocrinien a été utilisé jusqu'en 1993.
Les informés, Jean-François Aquilin.
La deuxième partie des informés de France Info avec nos invités, Caroline Michel-Aguirre, chef du service affaires de l'Obs, Véronique Reilsoult, directrice générale de Dentsu Consulting, avec Jannick Halimi, rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien Aujourd'hui en France, et Philippe Moreau-Chevrolet, je vous ai accroché le nom, hein, c'est pas bien ça.
C'est pas bien,
Jean-François Aquilis. Président de MCBG Conseil et professeur de communication politique à Sciences Po Paris. Alors l'État est-il en train de négliger les collectivités locales, voire même de recentraliser, pardon pour le néologisme, son action? Le Premier ministre a tenté de rassurer les élus ce matin à Marseille en allant répondre à l'appel des 3 grandes associations, régions, départements et maires de France, qui réclament plus de décentralisation. Séance marseillaise de câlinothérapie à la tribune du Premier ministre, puis ensuite extrait interview d'Hervé Morin, le patron UDI de la Normandie et président des régions de France.
Je pense d'une certaine façon, comme vous, que le sujet des relations entre l'État et les collectivités est suffisamment sérieux et important pour qu'il mérite une autre forme de débat, qui n'exclura jamais les désaccords, qui n'exclura jamais les coups de colère, qui n'exclura pas non plus les coups d'éclat, mais qui, je pense, peut porter sur autre chose qu'un débat que je crois, au fond, infondé, sur la volonté de recentralisation ou d'ultra-centralisation.
Nous apprécions le geste d'un Premier ministre dont l'agenda est celui que l'on connaît, qui prend le temps de passer une matinée pour évoquer des sujets. Il évoque l'idée qu'il y a des choses qu'on peut mettre sur la table ensemble. Nous allons regarder. Mais il n'est pas question un seul instant considérer qu'on va revenir à la table des discussions pour un plat de lentilles. Ça, ça n'est pas question.
Voilà, le plan de lentilles, hein, c'est pour le 19 octobre, il se revoit à Matignon. Jannick Halimi, ils ont raison, les élus locaux, de s'inquiéter?
Ils ont des raisons objectives, oui, absolument, notamment avec la diminution des contrats aidés qui portent effectivement un coût à certaines...
Il n'y a pas que ça quand même sur la table. Hein.
Il n'y a pas que ça, mais c'est quand même un élément extrêmement fort. Sur les autres éléments, oui, bon, il y a le sentiment du président parisien...
Jacobin.
Oui, parisien contre la province, on parlait du 80 km/h, c'est vrai que ça touche pas mal les gens plutôt de catégorie moyenne qui travaillent et qui doivent faire des déplacements de province à Paris ou entre deux points de province. Il y a des éléments, il y a ces 3 leaders, Hervé Morin, Dominique Bussereau et François Baroin, qui ont boycotté la conférence nationale des territoires le 12 juillet, qui poussent un coup de gueule. Il y a le représentant de cette opposition des territoires qui a un poids autrement plus important que les 3 leaders d'associations dont je viens de vous parler, qui est Gérard Larcher, le président du Sénat. Mais cela dit, si vous m'en laissez le temps, sur des arguments quantitatifs et sur des arguments politiques, on y reviendra,
oui, on fait le tour
qui
d'abord,
sont
hein.
ces soupçons de recentralisation, je pense que les arguments sont très légers et en tout cas que le pouvoir exécutif a des contre-arguments qui sont tout aussi audibles que ceux des décideurs des territoires.
Véronique Relsoult, que dit l'opinion publique, les Français? Ils se sont dit, il y a ce combat, vraiment Paris-Province, on est de laisser pour compte.
Et, plus encore que le président des riches, c'est le président des villes, bien souvent. Et donc forcément.
Donc c'est métropole et campagne.
Ben, oui, quand le président de l'Assemblée des départements de France, M. Bussereau, prend la parole, même si ça semble parfois un peu loin du quotidien des uns et des autres, en fait, forcément, on lui donne raison parce qu'il est proche, voilà, son maire, c'est toujours l'élu politique dans lequel on se sent qu'on reconnaît le plus, qu'on trouve le plus utile. Après, il y a la logique du département. Et puis, plus on s'éloigne, plus on monte à Paris, plus on a l'impression que votre élu s'éloigne de vous et vous comprend moins. Et comme il y a cette notion tout le temps du président des villes et contre la réalité de la province, que ce soit réel ou pas, c'est un sentiment perçu quand les gens habitent pas à Paris. Ils ont l'impression que, voilà. Et après, au-delà de Paris, il y a la notion de campagne. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans une grande agglomération. Eh bien, c'est compliqué. On revient à cette histoire des 80 km/h, mais c'est régulier. Ça ressort tout le temps. C'est une somme de plein de petites impressions qui donnent le sentiment que même l'augmentation du carburant, par exemple, les gens disent, bah oui, mais forcément, nous, on doit rouler. Enfin, voilà.
Caroline Michel-Aguirre, est-ce qu'il n'y a pas une sensation aussi de complexité des choses avec ce millefeuille qui, au fond, ne maigrit jamais? Et puis, il y a les baisses de dotations permanentes que subissent les collectivités. Il y a quelque chose de réel derrière tout ça, quand même?
Il y a un jeu qui dure depuis 20 ans ou 25 ans, d'ailleurs depuis le début de la décentralisation, qui est l'ajout, en effet, des départements aux communes, des régions aux départements.
Maintenant, on a les métropoles, tant qu'il arrive.
Et maintenant, on a les métropoles. Depuis 20 ans, on essaye de décentraliser. On ajoute des structures et depuis 20 ans, les patrons de ces structures disent qu'ils n'ont pas assez d'argent. Donc, en vérité, il n'y a strictement rien de nouveau dans le fond de ce qu'on nous dit depuis 20 ans. Quand j'entends « il faut redécentraliser », moi j'entends « il faut nous redonner de l'argent ». Donc on est dans une frustration par rapport à un schéma qui n'a pas été simplifié, qui est que probablement si la masse d'argent qui est gérée par les collectivités locales était réduite sur différentes structures, il y aurait plus de moyens. On réduit les moyens sans résoudre le problème.
Philippe Moreau-Chevrolet, les régions de France respirent aujourd'hui ou bien il y a toujours ce problème de Paris qui tient tout ça en laisse?
Alors le problème, c'est que comme avec les retraités, le gouvernement a commencé par cette histoire des emplois aidés, a commencé par cibler au fond fiscalement, budgétairement les collectivités locales. Du coup, il a perdu les sénatoriales d'une certaine façon, il les a en tout cas pas gagnées, en grande partie sur ce malentendu-là. Donc au fond, il y a un problème de Macron avec le pays et on a l'impression qu'il est jacobin, centralisateur parisien. Je vais vous dire pourquoi. Moi, j'avais discuté de ça pendant la campagne. J'avais dit à un ami sondeur, mais en fait, comment vous allez être élu? Vous n'aurez pas l'électorat populaire. Il m'a dit, mais on sera élu sans. Et ce « on sera élu sans », au fond, c'est un petit peu l'explication de l'accession de Macron au pouvoir. Il n'a pas eu le temps de se forger une conscience des territoires. Et ça, c'est compliqué une fois arrivé à l'Élysée.
Il faut dire qu'il les retrouve à la sortie, finalement.
Il les retrouvera toujours sur son chemin. Et c'est ce qui se passe pour les européennes et pour les municipales. C'est tout ça l'inquiétude, au fond, aussi chez En Marche, l'inquiétude de ne pas conquérir ce territoire français.
Promis, Jeannick Halimi, on poursuit sur le sujet dans un instant. 20h40 sur France Info. Le rappel de l'info avec vous, Emmanuel Grabé.
L'État doit prendre sa part de responsabilité dans le dossier du chlordécone. Déclaration ce soir d'Emmanuel Macron. Le président est en visite pour 4 jours aux Antilles. Le chlordécone, un insecticide utilisé dans les bananeraies, jugé cancérogène depuis les années 70, mais autorisé par la France jusqu'en 1993. Il a empoisonné les sols martiniquais et guadeloupéens et contaminé la quasi-totalité de la population qui détient le plus haut taux de cancer de la prostate au monde. Le responsable de la police municipale de Rodez dans l'Aveyron aurait été victime d'une embuscade ce matin. Son agresseur présumé l'attendait dans une rue sur son chemin vers la mairie de la ville. Il lui a asséné 3 coups de couteau. Il n'a pas survécu à ses blessures. A priori, son geste est une vengeance. Son chien lui avait été retiré par la police municipale pour un défaut de muselière. Le président de la commission de la défense de l'Assemblée, le député La République En Marche, Jean-Jacques Bridet, visé par une enquête préliminaire pour concussion. Il est accusé d'avoir perçu des indemnités auxquelles il n'avait pas droit, des indemnités au-delà du plafond prévu pour les élus qui cumulent plusieurs mandats. La Russie rejette les affirmations d'un site d'investigation, Bellingcat, qui identifie l'un des 2 assassins présumés de Sergueï Skripal comme étant un colonel du renseignement militaire russe. Pour le Kremlin, ce site d'information cherche à détourner détourner l'attention de ce qui s'est réellement passé à Salisbury en Angleterre quand l'ancien agent double a été empoisonné. Et puis le coup d'envoi dans 5 minutes du derby basque, c'est l'ouverture de la 6e journée de Pro D2 de rugby ce soir. Biarritz reçoit Bayonne au stade Aguilera.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors vous avez vu que le gouvernement veut augmenter le temps de travail dans les collectivités locales. Deux rapports indiquent que les fonctionnaires territoriaux, eh bien, travailleraient moins que les nationaux. Je sens que des personnes vont m'écrire ce soir sur Twitter. 1607 heures, soit 35 heures en moyenne. Hein. Le projet de loi de réforme de la fonction publique prévu à la fin de l'année prévoit donc une renégociation des accords en la matière. Ce qui signifie qu'en principe, et en temps de travail légal, eh bien, cela reviendrait à supprimer 32 000 postes dans la territoriale. Jean-Luc Calimi, on en parle. Est-ce que vous pensez qu'il y a un réel sujet là derrière? On a l'impression que tout est logique de dotation, d'heures de travail. Il y a une forme de logique comptable dans tout ça.
Il n'y a pas qu'une logique comptable parce que les chiffres dont on peut reparler ne sont pas toujours ce qu'on pense. Mais uniquement sur le temps de travail, on touche à la fonction publique territoriale. Alors moi, je ne vais évidemment pas apprécier les chiffres qui sont avancés. Là,
ce sont des rapports. En revanche, c'est discutable toujours. Oui.
Mais voilà. Enfin, moi, je ne les connais pas. Non, mais en revanche, sur ce domaine-là, je ne sais pas ce que va faire Emmanuel Macron. Mais en tout cas, les élus locaux sont plutôt demandeurs de cette réforme.
Ils sont demandeurs.
Parce que, voilà. Donc là, encore une fois, je ne sais pas ce que va faire le ministre de l'Intérieur ou le ministre de la Fonction publique ou Emmanuel Macron ou Édouard Philippe, mais en tout cas, là, il peut avoir un terrain de convergence entre l'exécutif et les élus locaux. Mais tout de même, je voudrais rajouter, une fois qu'on a décrit tout le réel malaise politique qu'on vient de faire, il faut quand même prendre quelques éléments objectifs. Il y a eu effectivement une baisse des dotations inopiné à la fin 2017. Et là, Emmanuel Macron a pris tous les élus territoriaux et Gérard Larcher à rebousse-poil et les a fait se cabrer. Ça, c'est sûr et certain. Mais en 2018, trois éléments. Les dotations aux collectivités locales qui avaient baissé sous le quinquennat François Hollande, les dotations pour 2018 de l'État aux collectivités territoriales augmentent de 315 millions d'euros. Donc on n'en est pas du tout ni à un gel ni à une baisse sur 2018.
Il y aurait donc une légère hausse.
315 millions d'euros. Bah écoutez, en tout cas, c'est pas une baisse.
C'est pas une baisse, oui.
Ce n'est pas une baisse. Et deux éléments sur les soupçons ou les attaques ou les critiques de recentralisation. Il y a deux éléments qui peuvent aller à sens contraire. Je serai très rapide. Oui. Il y a la politique de contractualisation que mène et que met en place l'État avec les maires, les conseils généraux, les départements et les régions. C'est-à-dire un engagement de l'État de ne pas réduire ses dotations, mais aussi un engagement des collectivités locales d'augmenter seulement de 1,2% leur dotation. C'est une sorte de contractualisation qui est quand même à l'encontre, ou en tout cas qui n'est pas une recentralisation. Et là, des mairies, comme la mairie de Troyes, de M. Barouin, des régions, comme la région d'Auvergne, Rhône-Alpes, comme celle de M. Wauquiez, ont signé de tels contrats. Et je termine, la suppression progressive de la taxe d'habitation doit être remplacée par une grande réforme de la fiscalité. Et cette réforme de la fiscalité passerait par... Une des mesures serait le transfert d'une partie de la TVA aux collectivités locales, sur laquelle les collectivités locales auraient l'autonomie.
C'est un conditionnel.
Ah bah oui, parce qu'elle n'est pas encore décidée.
Fait. On supprime d'abord,
mais dans l'orientation politique, on n'est pas vers une recentralisation, mais au contraire, donner un peu plus de marge de manœuvre aux collectivités locales. Donc tout ça, tout de même, il y a quand même une part de politique les discours portés par les trois leader des associations ainsi que par Gérard Larcher.
Belle démonstration,
faut le reconnaître.
Belle démonstration de Jeannick Halimi est documentée, c'est le principe même des informés de France Info. Philippe Moreau-Chevrolet, est-ce que c'est donc nous sommes dans le mur avec ces histoires de Paris contre la province où il ne se passe rien en réalité, il n'y a pas de sujet?
Alors d'abord, moi je suis pour que Jeannick Halimi soit nommé à l'aménagement du territoire. Parce que
peut-être que Monsieur Mézard...
C'est rare d'avoir un discours aussi clair sur un sujet.
Non, je reste journaliste.
Mais ensuite, parce que c'est un discours clair. Au moins, ça pose les choses, c'est intéressant. Oui, il y a un malentendu. À partir du moment où il y a un ressenti...
C'est ça.
il y a quelque chose qui existe politiquement.
Oui, on a, absolument.
J'avais une discussion là-dessus absolument. Avec un ministre socialiste, je crois que c'était Le Guen à un moment donné, sur le tourisme, il n'y a plus de touristes à Paris à ce moment-là, d'après les hôteliers. Et il m'a dit, si, statistiquement, ils sont encore là. Mais bah oui, mais d'après. Si les hôteliers ne voient pas les statistiques, vous voyez, il y a quand même un décalage.
Oui, mais ils voient leurs recettes.
Oui, mais le sentiment dans les territoires, c'est pas que l'État est derrière eux, c'est plutôt qu'effectivement, il y a une recentralisation, qu'effectivement, on leur grignote des budgets, qu'effectivement, leur quotidien est plus difficile. Il y a quelques années, je connaissais beaucoup de maires qui étaient prêts à se mettre à poil dans des calendriers pour signifier qu'on leur enlevait leurs subventions. J'ai été contacté en tant que communicant pour organiser des choses comme ça. On ne l'a pas fait, non, pas pour poser. Malheureusement, non, pas du tout. Mais en tout cas, pour permettre que d'autres puissent poser. Et c'était dans l'ambiance. Aujourd'hui, c'est moins le cas, mais il y a plus une colère politique.
C'est même pire, c'est qu'aujourd'hui, les maires ne veulent plus se présenter. On n'arrive pas à recruter des maires. Donc c'est même l'inverse.
Il y a un découragement et une colère plus politique, plus froide.
Et forcément, les citoyens inquiétants.
Qui s'accumulent sur plusieurs années.
Il y a des territoires et des collectivités qui souffrent peut-être plus que d'autres. Emmanuel Macron, vous le savez, s'en est allé 4 journées durant en immersion aux Antilles. Le président, à son arrivée en Martinique, a dit vouloir s'attaquer à la vie chère, un fléau endémique lié à l'insularité.
Il y a la vie chère. Mais la vie chère est liée à quoi ? Au fait que trop de choses sont importées, qu'on n'a pas assez développé de filières locales. Et c'est le cœur de la réponse que nous voulons faire, et ce sont les investissements dans les projets. Et les 70 millions dont je parle, ils sont plus utiles en les investissant sur des projets, et là on parle de tout l'Outre-mer, on ne parle pas que de la Martinique, hein, en 70 millions, que de les laisser dans des avantages pour ces 4%. Je vous le dis très franchement.
Alors Caroline Michel-Laguire, le président, ça y est, il fait de l'immersion, il fait du territoire là. Il est parti, il est loin hein, de Paris, mais il est dans les territoires.
C'est ce qu'il avait promis, il avait dit qu'il irait dans les territoires. Avant lui, Jean-Michel Blanquer s'y promenait beaucoup avant la rentrée. C'est le moment où il doit nous démontrer qu'il est au contact des personnes, des collectivités. Ce qui me déprime un peu dans son discours, c'est que j'ai l'impression de l'avoir entendu 100 000 fois. Tout le monde sait, sans être habitant de la Martinique ou de la Guadeloupe, que, enfin, tous les problèmes qu'il a identifiés. Et je suis pas sûre que ce soit avec 70 millions d'euros qu'on arrive à résoudre ça. En tout état de cause, il est dans un contexte qui est exactement ce qu'on disait aujourd'hui, à l'instant, de la province Paris. C'est-à-dire que son discours qu'il sert ici et que sa ministre du Travail a servi dans une interview pas plus tard qu'hier, est la mobilité, il faut se former, il faut traverser la rue, il faut répondre aux besoins des patrons. Sauf que là, dans ce contexte-là, aux Antilles, ce discours ne marche pas parce que de l'autre côté de la rue, il n'y a pas, c'est pas comme à Montparnasse.
Ouais, Véronique Reilsoult, le président est avec, au fond, les personnes sur le terrain et le Premier ministre, lui, se tape les élus. C'est un peu ça l'idée, non ?
Oui, c'est sûr.
Ça vous fait rire, ça.
Oui, l'expression est sympathique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on parle des Antilles, en tout cas quand les uns et les autres en parlent là-bas, les mots qui ressortent le plus, c'est les mots loin, perdu, oublié. Donc forcément, le fait d'aller vers eux...
Nous sommes maintenant après Irma et ses ravages. Voilà.
Le fait d'aller vers eux, c'est forcément positif. C'est sans doute une façon aussi quand même de démontrer qu'il est à leur côté. Après, je vous cache pas que la météo et les petits soucis locaux font que, ben voilà, sur place, quand on regarde les messages, et avec un mauvais, c'est un mauvais concours de circonstances et les uns et les autres, ils voient pas forcément des choses très positives.
Allez, 20h50 sur France Info, le retour de l'info avec vous, Emmanuel Grabé.
Le ministre de l'économie Bruno Le Maire saisit l'autorité de supervision du secteur bancaire après les révélations de 2 associations de consommateurs. Elles affirment que plusieurs banques, dont la Caisse d'épargne et le Crédit Mutuel, appliquent des frais illégaux à leurs clients à découvert. Si ces accusations sont avérées, Bruno Le Maire promet un durcissement de la loi dans les plus brefs délais. Après 7 ans d'absence, Ryanair annonce son retour en France. La compagnie aérienne va ouvrir 2 bases, une à Marseille, l'autre à Bordeaux, annonce cet après-midi. À la veille d'une nouvelle grève européenne, ses personnels cabine et pilotes sont appelés à cesser le travail demain dans 6 pays. Ryanair table sur l'annulation de 250 vols. L'état de santé de Tariq Ramadan n'est pas incompatible avec sa détention. C'est la conclusion d'une nouvelle expertise médicale. Il peut donc rester en prison s'il reçoit les soins nécessaires pour traiter sa sclérose en plaques. Il est en détention provisoire en attendant son procès pour des accusations de viol. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies veut charger une équipe de réunir des preuves sur les crimes commis en Birmanie contre la minorité musulmane Rohingya. Les mots de de génocide et de nettoyage ethnique sont régulièrement employés. Ces preuves recueillies pourraient être utilisées devant les tribunaux. C'est une première décision saluée aujourd'hui par les ONG internationales de défense de droits de l'homme comme Amnesty International. Et puis une médaille d'argent collective pour terminer les mondiaux de judo. L'équipe de France s'est inclinée 4 à 1 face au Japon en finale de l'épreuve par équipe mixte. Les tricolores rentrent d'Azerbaïdjan avec 5 médailles, dont une en or.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Allez, promis, nous parlerons des Antilles plus longuement dans les informés demain soir. Alors, Angela Merkel a-t-elle perdu la main? Son règne est-il en train de s'achever? Peut-elle rester à la chancellerie, comme l'a titré le quotidien Bild? La chancelière reçoit le président turc Erdogan pour une visite d'État de 3 jours en Allemagne avec la volonté de se rapprocher avec Berlin. On espère qu'ils ne se sont pas disputés à propos de l'attribution de l'euro 2024. Le pays, l'Allemagne, traverse une crise profonde liée aux migrants. Tiens, on y revient. Nous sommes loin de l'euphorie de l'entrée du million de demandeurs d'asile entre 2015 et 2016. Le parti d'extrême droite Alternative für Deutschland a fait une entrée fracassante au Parlement et les manifestations de rue se sont multipliées. Voici ce qu'en disait la chancelière le 28 août dernier à Berlin.
Nous avons des vidéos de chasse collective, de haine dans la rue, et cela n'a rien à voir avec un état de droit. Je ne peux que le souligner une fois de plus. Cela a également été dit hier au nom du gouvernement fédéral. Il ne peut pas y avoir de telles émeutes, que ce soit sur une place ou dans la rue.
Voilà, Caroline Michel-Aguirre, on y revient, hein, le dossier des migrants, là encore, en France, en Allemagne et ailleurs, qui s'impose et qui divise la population, la classe politique.
Je pense que l'Europe entière a les yeux rivés sur l'Allemagne parce qu'elle est le symbole de tous les maux, de ce que l'Europe ne sait pas faire et de ce que les dirigeants européens n'ont pas compris. Ce qui est certain, c'est que d'un point de vue politique, elle a totalement perdu la main. Son dernier mandat est tellement le mandat de trop que depuis le début, elle n'arrive pas à avoir une coalition politique qui tienne. Mais surtout, elle n'a pas du tout été en prise avec sa population. Elle n'a pas du tout compris que l'ouverture de ses frontières, qui était un geste magnifique d'un point de vue humanitaire, avait besoin d'être gérée. En tout cas, la population l'a ressentie comme une agression. Et aujourd'hui, on la sent en permanence dépassée. C'est ce qu'elle vient de traduire. Elle ne sait pas quoi dire. Elle dit, elle tense sa population. Elle leur dit, c'est mal, vous ne devez pas faire ça. Ce qui montre à quel point elle est complètement déconnectée de sa population aujourd'hui.
Mais Philippe Moreau-Chevrolet, Angela Merkel, c'est fini, elle a fait son temps.
Alors oui, c'est la mère de l'Allemagne. En fait, ce qui est très difficile, c'est autant pour l'Allemagne de tourner la page que pour elle. C'est parce qu'au fond, il n'y a pas tellement d'alternatives non plus, de situations de rechange. Ils l'ont cherché, ils ne l'ont quand même pas trouvé d'alternative à Angela Merkel. Donc elle est un peu là aussi par défaut.
Mais elle ne rassure plus, voilà. Non, c'est ça que je voulais dire.
Elle a perdu ça beaucoup avec la crise des migrants. Moi, je suis frappé. L'Allemagne est en train de faire un peu comme l'Italie, une sorte de laboratoire politique européen. On a un mouvement qui s'appelle Aufstehen, qui est créé quand même par l'épouse, si je ne me trompe pas, d'Oscar Lafontaine, qui est un ancien leader du SPD, donc plutôt de gauche, et qui disent, on veut bien être de gauche, mais on veut pas perdre l'électorat ouvrier, donc on va être de gauche, mais attention, pas avec les migrants. Voilà. Et ça, c'est une espèce d'évolution qu'on voit en Italie, qu'on voit donc en Allemagne, qui pourrait très bien arriver en France. Cette jonction des deux extrêmes dont on a parlé très souvent, sur lesquels on fantasme, est en train de se réaliser concrètement dans plusieurs pays. Et l'évolution récente de Mélenchon, qui est de moins en moins pro-immigration, ça préfigure peut-être ça. Donc Merkel, elle est clairement dépassée parce que le jeu politique européen est en train d'être complètement bouleversé.
Jean-Nic Halimi, sur cette trajectoire d'Angela Merkel et l'axe franco-allemand qui bat de l'aile depuis longtemps maintenant. Que diriez-vous ce soir?
Oui, ça bat de l'aile. Bah, moi, je dis que c'est gravissime. Parce que alors je veux parler de la France. Emmanuel Macron est à la tête de la France, donc moi je rejoins le.
Pour l'instant, il va bientôt être le leader du G7 l'année prochaine.
Pourquoi pas? Il restera leader. En attendant,
il restera toujours avec.
Non, mais enfin bon, ce sont deux leaders, deux des principaux leaders qui défendent quand même une certaine image et plus qu'une image, une politique de l'Europe libérale au sens du 18e et du 19e siècle du terme. Enfin, avec des valeurs humanistes. Qui mérite qu'on les défende. Alors il y a l'usure du pouvoir effectivement pour Madame Merkel. Je ne suis pas sûre, contrairement, pardonnez-moi Caroline, à ce que vous disiez, elle est déconnectée d'avec sa population. Vous dites oui, il y a une poussée de l'extrême droite. Oui, il y a une poussée d'extrême droite identitaire. particulièrement identitaire, puisqu'en Allemagne, il n'y a pas ou peu ou beaucoup moins de problèmes de chômage qu'en France. Donc, oui. S'il y a un pays où c'est caractéristiquement identitaire, c'est bien l'Allemagne. Mais est-ce que pour autant, alors effectivement, hein, pour le moment, elle est très fragilisée par sa majorité parlementaire, puisqu'il y a une partie de CDU, c'est la CSU, qui se rapproche, la CSU en Bavière, qui se rapproche, mais presque électoralement,
de l'AFD et de l'extrême droite.
Voilà, exactement. Mais pour autant, est-ce qu'elle est déconnectée de sa population ? Moi, je n'en sais rien. Franchement, il y a une partie de l'Allemagne et des Allemands qui reste totalement démocratique, ouvert au sens démocratique au sens encore une fois de Montesquieu et pas de démocratique au sens de populiste et qui soutiennent la politique d'ouverture vis-à-vis des migrants de Madame Merkel. Et donc moi je veux espérer encore que cette idée-là de l'Europe rebondisse et qu'on arrive pour le coup au niveau européen à trouver des vraies solutions à des réels problèmes.
Véronique Rensoult, on y revient, les migrants, encore et toujours. Hein, c'était l'objet du sondage ce soir.
C'est l'objet du sondage, c'était ce qu'on disait tout à l'heure, ça sera certainement l'enjeu des élections européennes. Je ne sais pas si Angelina Merkel est déconnectée. Angelina, elle est jolie, mais c'est autre chose. Je ne sais pas si elle est déconnectée, mais il y a une réalité, c'est que, je vous rejoins, les choses sont en train de changer et cette ambivalence qu'on pointait dans le sondage, on le trouve aussi chez les
Merci amis. Véronique Rensoult, merci à vous également Philippe Moreau-Chevrolet. Jeannick Halimi, la une du Parisien, aujourd'hui en France, demain.
Et c'est les Français et le sexe. Ah, nous sommes libérés, paraît-il.
Ah, je vais le lire dès cette nuit, tiens.
Voilà, bah, je vous en prie.
Et la une de l'Obs avec vous, Caroline Michel Aguirre.
Oh, mais chaque fois, j'oublie parce que je suis dans le numéro d'après.
C'est une honte.
C'est terrible.
Vous êtes renvoyé.
Allez. Oui, je sais.
Alors, glisser un mot pour Jean-François Aquini. Oui. Il y a les Antilles, mais est-ce que Macron peut aussi aller en Corse? Je crois que c'était un souci de Jean-François.
Joker, à demain soir pour une prochaine édition des Informés de France Info. Merci.